Avant Snowpiercer,
le transpersonnage, Bong Joon-ho a réalisé plusieurs films sur lesquels nous allons revenir. Par ordre chronologique, je pense que ça peut être bien d'avoir une petite lecture analytique, esthétique des films, puis dire aussi ce qu'on en a pensé. Son premier film date de 2000. On découvre Barking Dogs après une série de courts-métrages. Titre original, c'est Flanders to Guy. Je vais pas te dire les titres originaux pour les autres films. Hein. Voilà, celui-ci suffit. Qui l'a vu et qui a aimé? Ou qui l'a vu déjà, parce que c'est vrai que c'est un essai, on va dire.
Je l'ai vu et j'ai pas aimé. Je vais faire mon Yannick sur ce coup, mais... mais on sent que c'est vraiment un premier film où il a pas beaucoup de moyens déjà, parce que c'est très limité dans les décors, etc. Ça se passe dans un quartier, dans une sorte de cité HLM, on va dire. Et on sent qu'il y a des petites fulgurances visuelles, il essaye de mettre en scène, il essaye de varier, de jouer avec l'espace, etc. Mais le scénario est un peu bancal, je dirais.
C'est un prof, enfin non, justement, c'est pas un prof d'université, ouais, c'est quelqu'un qui veut devenir prof, mmh. qui doit réunir une somme d'argent pour d'ailleurs acheter son prof et être titularisé à la faculté, qui va être ennuyé par le chien de sa voisine et va décider de s'en débarrasser. Forcément, il tue un premier chien qui se fait bouffer par le concierge. Il se rend compte que c'est pas le bon chien, ça entraîne toute une histoire où les gens vont se mettre à chercher des chiens. Comme ça, ça a pas l'air très, très fun.
Mais
c'est pas très fun, c'est vrai que c'est très... ça manque un peu de rythme. Il y a quand même deux ou trois scènes où on retrouve Bong Joon-ho. Enfin, en tout cas, on va le retrouver plus tard, mais en le voyant après ce film, on retrouve sa patte. Il y a au moins deux scènes qui sont à la suite au milieu du film, je sais pas si t'es d'accord, Jérémy.
Vas-y.
Une scène où il y a un gars qui, enfin le personnage principal qui commence à balancer un chien donc du haut du toit.
Horrible.
Le chien commence à tomber au ralenti, c'est en montage parallèle. À côté,
avec
on voit
jumelles,
une personne qui est en train de l'observer. Mmh. Quand elle voit ce geste, elle fait tomber les jumelles. Et on voit en fait la réaction des personnes qui l'observent en parallèle avec le chien qui tombe. Et donc ça crée un jeu sur la personne qui a regardé, qui va déboucher sur une course-poursuite qui est elle aussi assez phénoménale, où là il y a une gestion de l'espace qui est très 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 maîtrisée.
Voilà, c'est ce que je disais, il y a des belles fulgurances, on sent qu'ils maîtrisent le truc, mais même cette scène-là, je trouve, il y a quelques trucs qui sont super maladroits. Le chien qui vole au ralenti.
Ah, moi j'ai bien aimé le chien qui vole
au ralenti. Mais j'ai trouvé. Déjà, le film commence par un mec qui prend un chien et qui cherche un moyen de le tuer. Mmh. Et c'est juste horrible. Il essaie de pendre le chien et tout, mais c'est juste horrible, quoi.
Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Le film commence et il essaie de trouver des moyens de tuer le chien. Donc, il essaie de le pendre dans un premier temps.
C'est censé être drôle et absurde, mais...
Il voit un reflet de lui-même en fait dans la glace. Et il se dit, je peux pas faire ça,
oui.
À quoi je suis
amené. J'ai trouvé ça
juste
cruel.
Il essaie de le balancer.
Il a raison de préciser au début qu'ils ont pas tué vraiment le chien, parce que quand il essaie de pendre le chien, le chien se débat et tout, mais c'est juste horrible, quoi.
Bon,
donc, âme sensible, ne regardez pas ce film, quoi. Amis des bêtes, ne regardez pas ce film, parce que c'est assez difficile.
C'est dans les films américains où il n'y a aucun chien qui meurt. Je ne sais pas si cette convention s'applique aussi dans les
surtout dans les films de Roland Emmerich d'ailleurs, où ouais, c'est souvent des...
Dans les films coréens, les chiens prennent cher.
Les chiens prennent...
Ils sont écrasés, mangés...
Et justement, il essaye par le biais des animaux de créer des séquences un peu... des séquences un peu absurdes où, par exemple, le mec arrive habillé en cahouet rouge et qui commence à courir après la vieille pour lui choper son truc et qui saute en mode football américain...
J'ai trouvé plutôt marrant ça.
Voilà, mais ça te fait rire parce que t'aimes pas les chiens, quoi.
Exactement.
Mais
voilà, il faut regarder ce film-là si on n'aime pas les chiens.
Voilà, mais il essaie de créer un décalage et je trouve qu'il essaie vraiment trop fort, en fait, finalement, que ça prend pas. Et on sent un petit peu, il essaie de créer une petite atmosphère à la Tati, un peu, avec avec les formes géométriques de l'immeuble, il essaie de jouer un peu.
Ouais.
Voilà, une petite musique dissonante, il essaie de trouver un petit style, mais finalement, il essaie trop fort, et finalement, ça prend pas encore. On sent les prémices du cinéma, mais ça prend pas, en fait.
Bon, on va voir si ça prend avec son film suivant qui est Memories of Murder. Oui, pardon, François.
Non, j'ai pas vu, mais il y a un mélange des genres déjà.
Oui, on sent ça pas clairement, puisque il y a des scènes assez assez dur sur la réalité sociale où le mec il est obligé de se bourrer la gueule avec son patron pour attirer ses faveurs, il est malade et...
Ouais, mais il y a des histoires absolument en fait
glauquissimes, quoi. Mais oui,
d'un gars bourré qui vomit et qui se prend un métro en pleine poire, enfin dans le...
D'accord.
Et le couple, et même le couple qui se déteste finalement.
Ah ouais, qui est très dur,
la femme est enceinte et le mec est une sorte de loc, et la femme déteste son mari finalement, elle lui balance à la gueule sans arrêt. Donc il y a sans arrêt ce jeu, on retrouve vraiment le jeu de Bong Joon-ho à casser les scènes, à casser les gens et à briser un peu les dynamiques. Il est là et d'un coup il passe à la comédie où il balance un chien par la fenêtre et on se marre, c'est marrant. Enfin, moi je me marre pas, mais Victor se marre donc.
C'est un peu plus haut que la fenêtre encore.
Enfin, oui, il va en haut, il va tout en haut. Ouais,
c'est une très belle chute.
Ouais, oui. Mais c'est juste horrible. Donc passons. Ça fait rire Victor, mais et puis il passe à une scène glauquissime où le mec se bourre la gueule, vomit partout et se fait arracher par un métro, quoi. Donc c'est...
Et en tout cas, on voit, je pense, tous les moyens de tuer un chien dans ce
mais
film.
Voilà, mais oui, c'est juste... Puis il finit par l'enfermer dans le placard, la pauvre bête.
Est-ce qu'il finit par le manger, quand même?
Mais oui, parce qu'il y a le concierge qui est complètement taré et qui mange, qui fait les chiens en ragoût. D'accord. Donc voilà. Ça donne envie, hein, quand même.
Le film est disponible en DVD, oui. Il me semble. Oui. J'ai pas vérifié chez quel éditeur.
Non,
donc
plus, mais
il est disponible en France.
Mais je suis sûr qu'en disant qu'on tue des bêtes, je suis sûr que les gens vont se jeter sur le DVD. Les ventes vont grimper.
Donc dans ce premier film parlait d'un tueur en série de chiens.
Ouais.
En 2003, en tout cas le film sort en France en 2004 et c'est avec Memories of Murder qu'on le découvre. Bong Joon-ho filme un vrai tueur en série. Enfin, en tout cas plus la traque des deux policiers. Qui ont un peu de mal à l'attraper et qui d'ailleurs ne l'attraperont pas du tout. C'était un énorme succès en Corée, je crois que ça a fait plus de 5 millions de spectateurs. En France, c'est le film avec lequel on a découvert Bong Joon-ho. Est-ce que c'était votre cas? Est-ce que vous avez découvert son cinéma avec ce film? Et,
ouais,
et quel effet ça vous a fait à ce moment-là? Alex?
Moi, j'ai vraiment trouvé ça... j'ai trouvé ça vraiment brillant. Déjà parce que en 2004, je connaissais pas du tout le réalisateur. Et c'est vrai que c'est vraiment un film. Enfin, c'est à l'inverse de tout ce qu'on a l'habitude de voir par rapport à. C'est un petit peu moins vrai maintenant, mais. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à l'époque le C'est un film très noir, très qui est pas propre, qui est vraiment enfin il y a des scènes sous la pluie dans la boue et on est vraiment toute l'ambiance du film est comme ça, quoi. C'est vraiment un film qui nous met mal à l'aise et puis l'histoire est brillante, enfin c'est très bien réalisé, c'est enfin j'ai trouvé ça très bien, quoi. C'est pas propre, Enfin, ça parle d'un tueur en série, donc de toute façon, l'histoire est pas censée être comme ça. Et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve maintenant dans les séries, un peu dans les séries US, un peu classe, un peu les trucs pour adultes, quoi. Vraiment, j'ai beaucoup
aimé.
Mais c'est ça, en fait. Voilà, pour contrer NCS, ouais, voilà, c'est ça.
Mais ça serait quoi alors comme série? C'est plutôt The Killing ou des séries
C'est plutôt The Blacklist. Mm. C'est plutôt. Je sais pas, House of Cards. C'est plutôt. Vraiment le truc pour adultes. Le truc,
c'est... En fait, ces séries-là, quoi, surtout House of Cards ou tu citais The Killing, je trouve qu'il y a.
Que j'ai pas vu, donc je cite sans voir.
Mais je trouve que c'est plus clinique en fait que le cinéma, que Memories of Murder, parce que Memories of Murder...
C'est organique, ouais.
C'est organique, ouais.
Tu sens les éléments,
c'est ça.
La pluie, la boue...
Mais je te rejoins dans le... C'est vrai que ça a fait école, comme dit Victor, et ça a influencé pas mal de monde. Ils n'ont pas peur de... Ouais, ils y vont, quoi, et... Mais c'est vrai que c'est plus clinique en fait, c'est les séries que tu cites, je les trouve plus cliniques.
Bah, c'est assez marrant parce qu'on peut comparer dans cette poursuite d'un tueur en série qu'on n'arrivera jamais à attraper à Zodiac de Fincher qui a fait House of Cards. Et Zodiac a un côté très presque mathématique par rapport au film de Bong Joon-ho qui part vraiment dans tous les sens, hein, et qui est très différent sur un sujet assez similaire.
Ouais, parce que ça. Enfin, moi j'ai l'impression que Zodiac, ça parle beaucoup d'une obsession.
Ouais, c'est ça, c'est un film sur
qui est un thème récurrent dans le polar et
chez Fincher.
Chez Fincher. Et que là, avec Memories of Murder, on est plutôt dans l'introduction d'un tandem de clowns, presque. Vraiment, je trouve que c'est son film où il mélange le plus les genres. On a vraiment un tandem grotesque, plus qu'incompétent, qui fait que casser les codes du polar. En trafiquant les preuves, en les fabriquant, en allant aussi se faire aider par une médium, mais même là, la course-poursuite foire, tous les attributs, tous les symboles forts de l'enquêteur et du polar sont traduits de façon grotesque en fait. Et tout en laissant effectivement ce côté poisseux et très très noir du polar qui fait que. Moi j'ai adhéré complètement en fait, parce que je me suis dit ça ressemble à ça, la vraie vie finalement, alors qu'on est quasi dans la parodie du vraiment... polar, mais
ouais. Je rentre bien plus dans l'idée du polar à travers ces deux anti-flics.
Je suis d'accord.
Je trouve ça vraiment génial.
Tu t'identifies plus, tu dis ils sont humains, tu dis peut-être que moi aussi j'aurais fabriqué des preuves, peut-être que moi aussi je serais allé voir une médium, ce genre de choses. Et je sais pas, tu dis que les mecs ils. Tu t'imagines que ça se passe comme ça dans la vraie vie et que, en tout cas en 1900, enfin à l'époque,
oui, mais c'est vrai que c'est tiré d'un fait divers.
Ouais. C'est un film d'époque, ouais.
Ouais, et puis c'est la Corée des.
Enfin, c'est la Corée des années 80.
Exactement.
C'est une dictature. Qu'on n'imagine pas. Enfin, il y a vraiment une très grande différence entre la Corée des années 80 et la France des années 80. Ça n'a vraiment rien à voir. Le régime n'était pas le même. C'est une dictature. Et la police n'est pas la même. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup d'évolutions en Corée du Sud. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas trop transposer les années 80 en Corée du Sud et les années 80 en France. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, je m'identifie. Enfin, l'idée que je m'en fais, en tout cas, je m'identifie plus au personnage dans le film. Enfin, en tout cas, la police dans ce film. Que ce qu'on peut voir à longueur de temps en France, aux États-Unis, ce genre de choses. Et c'est vrai que.
Ouais, qui est plus lisse et ouais, un peu lissé, quoi, justement.
Ils prennent la figure de. Parce que c'est des flics un peu. C'est des anti-héros, quoi. C'est des flics un peu. Et en fait, il en fait des personnages plus terre à terre, quoi. Plus.
Moi j'ai l'impression à l'inverse. Enfin, on a l'impression que c'est des anti-héros et on rentre dans leur enquête par le rire parce que. Ils marchent sur les scènes de crime, ils passent leur temps à bafouer ce que même nous on connaît à travers les séries américaines.
C'est des charlots quoi. Donc,
c'est des charlots, mais après on se rend compte finalement ils luttent contre une hiérarchie, qui sont vraiment eux aussi obsédés par leur enquête, et que finalement ils souffrent vraiment de l'échec, et on rentre dans leur enquête par le rire, et puis finalement on est. Enfin la fin elle est tétanisante, et on l'est avec eux quoi. Enfin,
je sens qu'Yannick n'est pas d'accord sur Memories of Murder.
Mais je suis d'accord sur pas mal de choses qui ont été évoquées. C'est vrai que les personnages sont très humains. C'est vrai qu'on peut s'identifier à eux, mais c'est chiant. Je veux dire, alors il y a effectivement beaucoup de tentatives d'absurde pour rentrer dans l'enquête, etc. Mais aucune de ces tentatives-là m'a fait ne serait-ce que sourire. Finalement, tout le film, il se passe rien. On les voit marcher, on les voit effectivement, ils trafiquent 2-3 preuves et tout. Oui, c'est très humain, mais
c'est juste
long et chiant. Et personnellement, moi, j'ai pas trouvé la fin tétanisante. Pour moi, la fin, même si du coup on reste dans le côté fait divers, parce qu'effectivement c'est tiré de quelque chose de réel, pour moi la fin rend plutôt vain tout ce qu'on a vu précédemment. Il aurait peut-être mieux valu qu'il fasse un documentaire que ça, quoi.
Je suis pas d'accord du tout. Enfin, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où en mélangeant ces genres-là, moi j'ai l'impression qu'il emprunte au conte sans arriver à la morale et que moi j'aime bien par rapport à l'aspect politique qui passe de film en film, moins dans le transpersonnage, même si, mais bon, moi j'adhère moins. Mais à travers le côté documentaire, je pense qu'il n'aurait pas du tout dit la même chose. Il aurait parlé d'un échec, d'un manque de moyens, d'incompétence.
Puis là, il y apporte son ton Et
oui, mais pour moi, justement, le problème du ton, c'est qu'il est chiant.
Oui, mais il est chiant pourquoi?
je comprends tout à fait. Et effectivement, le côté politique, ça je l'ai quand même perçu. Mais moi, je comprends ce qu'il a essayé de faire. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Mais j'ai absolument pas été touché. Personnellement, je me suis emmerdé tout le film.
Mais moi, je comprends ce qu'il veut dire. C'est vrai que c'est très différent d'Astérix chez les Bretons. Et du coup, je comprends qu'il puisse ne pas adhérer à ce concept.
Après, c'est vrai que l'ennui est de toute façon un sentiment très, très subjectif qui nous explique. À mon sens, ça fait pas d'un bon film ou d'un mauvais film le fait qu'on s'ennuie, mais ça, c'est un autre débat. Et bon, j'imagine que tu as un peu cette perspective, Yannick, sur toute la filmographie de Bong Joon-ho, vu qu'il manie effectivement, enfin, il joue avec les codes narratifs dans tous ses films qu'il déconstruit un peu, même complètement. Il joue avec les ruptures de ton sur un humour sur lequel tu n'es pas sensible. Donc, comme on va parler de The Host, j'imagine que The Host t'a fait le même effet. Donc.
Je me suis pas ennuyé devant The Host parce que The Host, il y a quand même, il se passe des choses, il y a de l'action. Après, je trouve le film pas très intéressant. Mais non, là c'est pas de l'ennui. Pour moi, The Host, bon, il y a une jolie bestiole. Je trouve par exemple, par contre, les personnages principaux. Vraiment complètement raté. Je veux dire, je les supporte pas. Je trouve qu'ils sont mal écrits, qu'ils sont vraiment trop caricaturaux. Et toute la thématique sur la pollution, etc. Venir en 2000 avec un message pareil, c'est voilà quoi.
Bah, Del Toro, il le fait dans Pacific Rim un peu.
Ouais, après, c'est pas Del Toro comme. Peut-être Bong Joon-ho est un cinéaste plus politique. Bon, on en parlait pour le transpersonnage, dans lequel il y a un aspect politique qui est évident, vu que c'est une lutte de classe sociale. Mais c'est finalement pas l'aspect qu'il choisit de mettre en avant dans le transpersonnage. J'ai l'impression que ces messages politiques sont plutôt en creux, et c'est plutôt l'esthétique qui est extrêmement important, et le jeu sur les genres qui va essayer de tordre de film en film, qui lui permettent de faire passer ces idées. Et Zio, c'était particulièrement... Enfin, frappant par rapport au jeu sur les films de monstres. Est-ce que vous avez aimé, vous, The Host ou...
Ouais, moi, j'ai en pointillé, mais beaucoup aimé. Pas tout, mais je trouve qu'il y a des longueurs. Mais presque, moi, c'est à l'inverse. Presque les longueurs, c'est quand il y a le monstre. Paradoxalement, même si, effectivement, je le trouve très bien fait. Mais je trouve que les personnages sont plus archétypaux que caricaturaux, en fait. Du coup...
Oui, archétypes, ouais.
Dans tous ces films. Du coup, moi, cette petite cellule fonctionne. Enfin, pour moi, elle fonctionne. Voilà, j'adhère au symbole que chacun de ces personnages véhicule.
Mais donc, dans le transpersonnage, le fait qu'il parle plus d'archétypes, notamment du cinéma américain, que de personnages écrits, t'a plus dérangé que dans The Host, parce qu'on pourrait reprocher la même chose à The Host.
Ouais, peut-être dans Transpersonnel, je voyais que des archétypes, tu dis par exemple, d'une transposition. Là, je voyais des archétypes dans une société, enfin, il y a des choses évidentes. Il manque la mère, il y a la bête, il y a le père qui est incompétent, il y a... Enfin,
c'est un beau film sur la famille, quoi.
Il y a plein de choses qui disent sur la famille, sur la société à travers ça, sur... Donc, voilà, moi j'ai voyagé dans ces archétypes et pas dans Transpersonnel.
Sur la Corée des losers, en plus, quoi, c'est un peu la Corée des perdants, quoi, que Bong Joon-ho monte dans le film.
Déjà dans Barking Dogs et dans Memories of Murder, on trouve...
Bah, ils s'attachent vraiment à filmer les losers, ouais. Quoi. Ils sont tous l'autre qui a peur de tirer à l'arc, il y a des lâches, il y a un peu de tout ça, et il crée une dynamique entre ces personnages qui est assez belle, en fait, finalement. Ouais. C'est pas un film de monstres, en fait, c'est un film sur la Corée, en fait.
Ouais, c'est un film sur l'accouchement, enfin aussi sur l'accouchement d'une famille, mis en image littéralement aussi à la fin avec les deux enfants. Mmh. Le père qui se révèle à lui-même au bout d'un long. Beaucoup d'aventures, beaucoup de traumatismes. Donc je sais pas, moi c'est tous ces sous-textes en fait qui m'ont beaucoup parlé. Je me suis amusé à voir les symboles, effectivement la lance à la fin avec le monstre.
Là aussi, il y a cet aspect.
C'est le dragon.
À la fois très organique, qui peut être très réaliste, avec un jeu sur les codes, et en même temps, tu parlais
Tu parlais du conte dans Memories of Murder. Là, effectivement, il joue avec d'autres symboles. Dans Transpersonnage, on trouve ça. Enfin, ça, il y a un aspect réaliste au début du film où on nous dit, contrairement à la bande dessinée, ça se passe en 2031, il y a tel virus qui a infecté la couche d'ozone. Et donc, on est dans des faits très, très précis. Mais finalement, on se détache de ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus conte, sans l'aspect moral non plus, ouais. dans le transpersonnage.
Moi pour ma part, je suis pas un grand fan des films avec des gros monstres, que ce soit les aliens, ce genre de choses, et du coup j'ai beaucoup moins accroché. En soi, il y a un gros monstre, c'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et parce que je trouve qu'en fait, à chaque fois, tout n'est pas mis en action pour tuer le monstre. Enfin, c'est pas non plus une invasion du
Après, c'est ce qu'on disait, enfin, le monstre est plus symptomatique de choses qui se passent dans la famille ou dans la société coréenne.
C'est un révélateur.
Dans Alien aussi, c'est le cas en même temps. Donc tous les films de monstres sont plutôt des films métaphoriques sur un élément perturbateur et révélateur, comme
ouais. J'ai pas accroché, ça m'a... Enfin, c'est passé tout seul, parce qu'effectivement, on s'ennuie pas spécialement, il y a le monstre, tout ça, etc. etc. Mais l'histoire est pas dingue, quoi. Enfin, ce qui me fait beaucoup accrocher dans un film... en dehors du côté graphique de celui-là, c'est vraiment l'histoire. Et là, pour le coup, j'ai pas trouvé ça. Enfin, ça m'a pas touché. Voilà.
Quand tu parlais, François, justement, parce que moi, c'est vrai que Bong Joon-ho me semble un réalisateur, plus un plasticien en fait qu'un narrateur. C'est-à-dire, il va raconter une histoire à travers des éléments visuels. Tout à l'heure, quand tu parlais de chercher des éléments scénaristiques, tu pensais à quoi dans ces films?
Visuellement, tu dis, ou de manière générale?
Je crois, alors il me semble, mais je me suis peut-être trompé, que tu t'avais dit que tu avais revu Memories of Murder pour chercher des éléments de scénario, en fait.
Ouais, c'était par rapport à cette façon dont lui déconstruit le polar. Parce que c'est quasiment une façon de voir en négatif tout ce qu'il faut plus faire dans le polar. Parce que c'est marrant, dans tous ses films, même dans The Host, il nomme les choses quand les personnages ont besoin de... Par exemple, dans The Host, ils ont besoin de tracer le téléphone. Et toujours, il va dire, bon, voilà, alors comment ça se passe? Tu fais, oh, mais c'est pas très compliqué, ça se passe comme... Enfin, tout est bazardé tout le temps. Et moi, j'aime beaucoup sa façon, même dans Memories of Murder ou dans The Host, dont il déconstruit à chaque fois les corporations, les hiérarchies et les petits intérêts personnels, en fait. Tout est toujours corrompu, c'est très difficile de passer d'un étage à un autre. Les promesses sont toujours dégonflées. Enfin,
c'est récurrent dans tous ces films. De toute façon, même Mother, quand tu vois elle se bat, c'est le combat d'une mère, quoi. Et là, c'est pareil dans The Host ou dans Memories of Murder. Ouais, ils sont toujours. Il y a toujours des obstacles et des obstacles. Bah, transpersonnage aussi, d'ailleurs. C'est ça. Une histoire à chaque fois. Ils sont freinés. Ils sont.
Mais ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, il en profite pour être dans la critique. Ce que je retrouve pas dans le transpersonnage. Et là, moi, donc, quand j'allais voir le polar, quand j'allais voir un polar pour Memories of Murder, pour voir comment il le traite, c'est la même manière que tu regarderais The Host pour voir comment il travaille un film de monstre, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il te met tous les ingrédients, mais qu'il les déconstruit un par un. Même le médium, qui est un élément qui revient dans le polar, je pense à David Peace, par exemple. Là, ils y vont, on se dit que le médium est foireux, mais finalement, c'est comme ça qu'ils trouvent le suspect le plus pertinent, en fait. Donc tout ce qu'il dit, c'est que tout le professionnalisme, ce qu'ils ont, tout le matériel ne sert à rien. Finalement, c'est la médium qui avait raison, mais après, eux sont tellement incompétents qu'en plus, donc là, j'ai l'impression que c'est pareil avec le monstre. C'est qu'en fait, voilà, c'est le monstre, ce que tu dis, est révélateur de services publics incompétents, d'une médecine incompétente, de circulation de l'info de non-circulation de l'info, de...
Exactement. Et c'est création d'un martyr. Des éléments qui me semblent beaucoup plus intéressants que, disons, que le message basique que semble véhiculer le film sur l'écologie, c'est-à-dire que la critique se fait en creux et de manière aussi esthétique, narrative, scénaristique, quoi. Donc,
parce qu'on sait que le film de monstre, de toute façon, on prend le Kaiju, on prend Godzilla, on sait que c'est une critique du nucléaire ou qu'il y a forcément un sous-texte écologique. Mais là, il va...
faut aller au plus loin pour voir qu'il parle de la Corée d'aujourd'hui, des politiques, de ce qui ne fonctionne pas. Et c'est assez subtil quand même, Bong Joon-ho, l'air de rien.
Je vais poser une question. Pardon François, tu avais un truc à rajouter sur
la mise sous tutelle de tout un pays par l'argent, on a l'impression. Voilà, quand ils sont tous dans la pièce à demander combien coûte la prime, est-ce que c'est exonéré d'impôts?
Et puis il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ils sont tous incompétents, ils sont tous cons.
Tous ces éléments de films de genre, il est rentré triviaux en fait. C'est, voilà. Est-ce que la prime est exonérée d'impôts? Je trouve que ça résume.
C'est absurde.
C'est parfait quoi.
C'est vrai que c'est.
On va parler de ces deux derniers parce qu'on va un peu accélérer sur la filmographie. Donc il réalise ensuite un film omnibus avec Léo Scarrax et Michel Gondry qui s'appelle Tokyo. Puis un film donc Mother en 2009 avec Kim Woo-ja qui incarne une mère qui est prête à tout pour innocenter son fils avant de faire le transpersonnage. La question que j'ai envie de poser justement pour finir sur la filmographie qui est un peu contradictoire, c'est est-ce qu'après avoir fait trois films très coréens qui sont des box-office, qui sont des succès aux box-office nationaux, mais qui sont aussi très prisés par la critique internationale et occidentale, est-ce que le cinéaste ne perd pas un peu de sa spécificité nationale en faisant d'abord un film qui est plus ou moins complètement encadré par deux cinéastes français? Un film Mother qui s'éloigne un peu de ce qu'il a fait avant pour être un peu plus aseptisé par rapport au festival. Vous pouvez me dire non, mais en tout cas qui a une qui était à Cannes il me semble et qui passe très bien dans les festivals internationaux jusqu'à réaliser le transpersonnage qui est une réponse mais aussi complètement anti-système du cinéma hollywoodien.
Alors tu penses qu'il rentre dans le rang alors finalement bonjour.
Alors je vous pose la question justement.
J'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Non, moi je trouve pas qu'il rentre dans le rang, je trouve surtout qu'il s'attache à voilà et comme disait François, il s'attache à démonter chaque genre qu'il aborde je vais faire une comparaison foireuse mais c'est comme Nicolas Winding Refn qui s'attaque à chaque fois à un genre différent et qui essaye de d'en faire à sa sauce. Et là, bah, il nous fait le drame social avec Mother, il nous fait le film omnibus, et il nous fait le film hollywoodien, il nous a fait le film de monstre. Donc il y a toujours un genre auquel il s'attache et il essaye de démonter ça.
Le film post-apocalyptique
avec voilà, exactement. Reste, je trouve que
c'est pas une question nationale, c'est une question d'identité thématique.
Bah, je trouve qu'il fait ce qu'il a envie de faire et qu'il essaye d'aborder un peu tous les genres et de les monter à sa sauce.
Et puis pour Snowpiercer, quand même, il s'est vachement mieux débrouillé que ce soit. Kim Ji-woon pour Le Dernier Rempart par exemple.
C'est produit différemment aussi. Enfin, Kim Ji-woon voulait vraiment faire un film aux États-Unis, il y est allé, il a fait son film hollywoodien. Bong Joon-ho, il reste quand même.
Il y a Le Dernier Rempart.
Oh, mais c'est pas possible, Yannick. alors là, non.
De toute façon, dès qu'il y a Schwarzenegger, on sait que t'es de.
Déjà.
Voilà.
Donc ouais, il s'est quand même mieux débrouillé.
Non, bien sûr, mais que ça soit, et puis même que ce soit j'ai oublié le nom de le film de Park Chan-wook,
Stoker.
Que Stoker aussi, enfin, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait vraiment c'est un peu la mode, c'est un peu les
avant c'était la mode des HK,
mais c'est ça en fait allait, en fait c'est j'espère juste qu'ils auront un meilleur destin qu'eux. Parce que
il commence mieux. Même Kim Ji-woon avec Le Dernier Rempart, c'est moins pire que ce qu'a pu faire John Woo.
Bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Mais quoi qu'à l'époque, j'avais beaucoup apprécié Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme. Mais bon, j'étais jeune. Il suffit de regarder la date.
Non, tu peux. Oui, moi aussi, même aujourd'hui. Hein.
Et bah, je l'ai pas revu depuis, je crois que c'est la coupe de cheveux de Jean-Claude Van Damme dans le film qui me rebute.
Oui, ça bloque un peu, ça doit être.
mais je pense que c'est un petit peu dans la vague coréenne, ils ont fait leur film avec des capitaux étrangers en tout cas, que ce soit plus ou moins hollywoodien ou pas. Et de toute façon, ça ne veut pas dire qu'ils renient leurs origines, leur cinéma, et rien n'empêche.
Et justement, je trouve qu'ils le font mieux quand même, qu'ils le font beaucoup mieux que les cinéastes hongkongais. Bon, Peut-être parce qu'on leur a proposé que de la merde aussi, les Hongkongais. Parce que
il fallait voir les scénarios. Et les
quand acteurs, tu vois Choi Ar qui fait Double Team, Kirk Kong qui fait The Big Hit et Ringo Lam qui fait Piège à Hong Kong ou je sais pas quoi.
Non, c'était
Choi Ar Piège à Hong Kong, ouais. Mais c'était que des films comme ça, des films avec Jean-Claude Van Damme, quoi. Bon, ok.
Mais je pense
Jean-Claude
juste...
Van Damme, c'était le passage obligé pour, oui. Pour ce genre de réalisateur.
Oui, oui, non, mais voilà, c'est bien triste. Alors qu'aujourd'hui, quand même,
c'est tu le vois. Comité d'accueil, quoi.
C'est ça. Alors
je pense qu'ils ont plus de. Je pense que
de liberté, quand même.
Grâce justement à cette vague des cinéastes hongkongais des années 90-2000 aux États-Unis. Justement ça a un petit peu balisé le terrain parce que globalement c'était la première fois qu'il y avait autant de réalisateurs étrangers d'un même pays qui faisait autant de films à Hollywood et du coup je pense que ça a...
Ouais, y a de toute l'histoire d'Hollywood enfin, il y a eu des vagues de cinéastes anglais, des vagues de voilà, cinéastes allemands qui sont,
je pense qu'en fait ça a balisé un petit peu le terrain. Et puis ça fait moins peur aussi à Hollywood. Donc je pense qu'ils ont eu plus de liberté quand même.
Ouais, ils ont eu plus de liberté. Et même si je trouve Stalker de Park Chan-wook, Park Chan-wook assez raté, mais quand même on sent qu'il a fait à peu près le film qu'il voulait en fait. Donc
moi je trouve que c'est un film qui est très beau. Après au niveau de l'histoire, je suis désolé pour le spoiler, mais enfin je suis devant un épisode de Dexter quoi. Oui. C'est vraiment c'est un épisode de Dexter enfin du début à la fin
et ça va continuer parce que Na Hong-jin va faire le remake de The Chaser, il va le réaliser lui-même aux États-Unis donc voilà, on est parti encore pour
après je sais pas quelle est la il me semble que alors je sais pas comment Kim Ji-woon par exemple a réagi au dernier rempart et comment il l'a vécu.
Il a dit que c'était sa première et dernière expérience à Hollywood.
Puisque il partait sur un autre projet, c'est Liam Neeson qui était censé être l'acteur principal. Il se retrouve avec Schwarzenegger. Bon, et le film est assez bancal par rapport à ça.
Mais en plus, moi je trouve que Schwarzenegger s'en tire plutôt bien dans le film. On sent que. Enfin, c'est vraiment l'image de Schwarzenegger de maintenant. Il est vieux, il a besoin de ses lunettes pour voir. Bon, même si il arrive quand même, on se doute bien, c'est un film de Schwarzenegger, c'est lui qui gagne à la fin. Mais il se débrouille pas trop mal. Après, que le réalisateur ait eu moins de liberté, qu'il ait voulu faire un truc un petit peu plus foufou, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, la prestation de Schwarzenegger dans le film est plutôt pas mal. C'est juste que le film est juste passable, quoi. C'est pas.
Et donc voilà, quand tu prends Stalker. Quand tu prends donc le dernier rempart et que tu prends le transpersonnage, il y a quand même un bon qualitatif avec
un bon Jung-ho qualitatif quoi. c'est merci. Et non tu sens quand même qu'il a beaucoup, bah, c'est peut-être parce que c'est pas des fonds américains justement,
c'est pas Hollywood. Voilà. Et je crois qu'il y a c'est actuellement on a des nouvelles du montage américain, de la distribution par les Einstein. Et c'était Manaro. Pas sûr qu'il y ait des coupes. Enfin, quand je l'avais rencontré, c'était début septembre. Il y avait des rumeurs comme quoi les Weinstein allaient couper le film. Mais lui-même disait que pour l'instant, il croisait les doigts et il pensait qu'il n'y aurait pas de coupe. Là, ça a été confirmé et apparemment, il n'est pas content du tout du sort du film. Quoi. Donc, je crois que tous ces réalisateurs sont quand même assez mécontents à quelque niveau que ce soit de leur collaboration avec Hollywood. Et là, pour autant, donc Jean-Go, il en est quand même assez éloigné avec le transpersonnage. Quoi.
Et donc justement, pour répondre à ta question, finalement, non, on perd pas Bong Joon-ho et le transpersonnage quand même, voilà, il y a l'essence de son cinéma et je trouve que voilà, il s'en sort très bien. On l'a pas perdu.
La question, c'est pourquoi les réalisateurs continuent à aller à Hollywood quoi. Enfin, pourquoi Na Hong-jin
le vrai problème.
Et ils reviennent tous, y compris les réalisateurs français.
Parce que c'est un rêve, parce que c'est un rêve, parce que c'est Hollywood et que chaque réalisateur, avec l'ego qu'ils ont, ou je les connais pas, mais tu te dis forcément.
Ils ont
tous
un énorme ego.
Mais non, pas forcément. Mais forcément, quand t'es réalisateur, tu te dis moi je vais y aller et moi je vais réussir. Parce que naïvement, tu penses que.
Et le rêve de gosse aussi. Hein.
Naïvement, tu penses que tu peux faire une différence, mais finalement.
C'est peut-être aussi de vouloir voir, tout simplement, de voir quelque chose de différent, d'avoir des nouveaux acteurs, d'avoir.
On leur ressort toujours le même couplet, quoi, parce qu'il y a quand même eu, des, y a quand même eu 20 exemples différents de réalisateurs asiatiques qui sont allés se casser les dents là-bas,
Et c'est...
Mais c'est de toute nationalité. Hein. Enfin,
oui, oui, non, mais là, parce qu'on est dans l'Asie, mais c'est vrai que oui, partout, ouais. Mais les Français. Ah, ou, mais
tous les jours, t'as des, tous les jours, t'as des étrangers qui débarquent à Hollywood pour ce succès-là, qui veulent réussir. Dans l'Asie. Voilà. Voilà, c'est ça. Et
moi,
puis...
Par exemple, John Woo, il a fini par bien s'en sortir, je trouve.
Bah, John Woo, il a quand même fait Broken Arrow et Windtalkers. Et,
ouais, mais Windtalkers, par exemple, c'est... pour moi, c'est un très bon film. Et c'est le film qu'il voulait faire grâce au.
Ouais, mais voilà, moralité de l'histoire, il est reparti en Chine faire son film.
Il a fait ce film avec Ben Affleck aussi, qui était après Kadik.
Paycheck.
Paycheck, voilà. Il a fini là-dessus. Ouais, et il est quand même revenu en Chine. Quoi.
Mais il est quand même revenu en Chine parce que le dernier royaume, on pouvait pas. Non, les trois royaumes, excusez-moi.
Les trois royaumes.
On pouvait pas. Il pouvait pas le faire aux États-Unis, c'est juste pas possible. John Woo à Hong Kong, en Chine, il est tout puissant. Donc là, sa super production, il l'a fait le doigt dans le nez, quoi. Aux États-Unis, c'était juste pas possible. On lui aurait proposé encore un film avec Christian Slater ou. Voilà, ouais. C'est juste.
Je crois qu'il n'y a plus grand monde qui propose des films avec Christian Slater.
Non, mais c'est bien dommage parce que Christian Slater, quand il se drogue pas, il est cool, quoi.
Ouais, donc... mais ça arrive pas souvent.
Ouais, voilà, c'est ça le problème.
Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on ne verra jamais Christian Slater dans un Bong Joon-ho. Et on va revenir dans une dernière partie, donc après cette parenthèse hollywoodienne, sur Bong Joon-ho dans notre dernière et beaucoup plus courte partie. À tout de suite.